chiffres, leur moyenne était de 40 millions de dollars de revenus par personne. Ces dernières années, la moyenne des revenus pour les plus riches est passée à 227 millions de dollars, plus de 5 fois plus. Et au cours des mêmes années, leur part d'imposition est passée de 29 à 21% de leurs revenus. Alors, s'il y a bien une guerre des classes, c'est la classe des riches qui a gagné.
Il y a des gens qui ont une conscience de classe très précise et très aiguë, qui ne sont pas ceux que l'on croit. Vous citez Warren Buffett, et Warren Buffett dit « Mais bien sûr qu'il y a une lutte des classes, mais c'est la nôtre, c'est la mienne », dit cet ultra-milliardaire américain, c'est la mienne qui est en train de gagner. Hein. Voilà. Donc il a parfaitement le sens de la classe, de son appartenance de classe et de cette lutte de classe. Et je pense que ceux que vous avez servi si longtemps, cher Olivier Besancenot, en tant que facteur, parce que je sais que maintenant vous êtes dans une autre poste, vous êtes au guichet maintenant, c'est ça, dans une autre poste, mais ceux-là ont tout à fait, les quartiers dans lesquels vous avez travaillé longtemps, à Neuilly, ont parfaitement le sens de leur classe et de la lutte des classes.
C'est absolument vrai, c'est-à-dire que dans ces milieux-là, dans cette petite minorité, je pense qu'on peut décerner la palme, le grand prix du marxisme au XXIe siècle, parce que plutôt que d'en débattre, l'applique, la pratique, ça ne fait pas débat. C'est simplement une mise en musique quotidienne, régulière, assumée, alors revendiquée à l'extrême, comme Warren Buffett, sous forme de provocation, mais même plus récemment, j'ai vu que Servan Schreiber avait écrit un livre en disant « Les riches ont gagné », voilà, en donnant toute une série d'éléments plutôt justes, d'ailleurs, d'un certain point de vue. Alors, ils n'ont pas gagné, pour l'instant, ils gagnent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est intéressant, alors là-dessus, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de nos amis sociologues, les Pinson-Charlot, qui ont étudié de près les us et coutumes de cette classe sociale. Et d'ailleurs, eux l'ont rappelé dès le début, en disant s'il y a bien une classe qui existe en tant que telle, c'est la classe des riches. Et c'est souvent une leçon de choses en termes de condensé, de pratiques solidaires, de pratiques unitaires, de pratiques de classe. Donc la première partie de mon livre, c'est de rentrer un peu dans le détail de cette bonne piqûre de rappel, de dire que si la lutte de classe paraît désuète pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'exploités, d'opprimés, elle est d'actualité en tous les cas pour le camp d'en face.
Désuète, c'est ça, parce que quand on dit lutte de classe, on a tout de suite en tête l'image, alors du gros capitaliste avec son chapeau au birflet, son gilet, sa chaîne de montre et son cigare, et puis en face le prolo en bleu dessiné par Fernand Léger, musclé, etc. Et puis voilà cette image. Beaucoup en ont la nostalgie, mais on dit bon ben voilà ce monde-là, cette lutte-là, cet affrontement-là est aboli aujourd'hui. Les riches sont toujours riches. D'abord, ils sont très minces. Hein? Ils sont très minces maintenant. C'est plutôt les pauvres qui grossissent.
Absolument.
À cause de la malbouffe. Et la classe ouvrière qui avait les moyens. C'était un temps où les riches avaient besoin des pauvres. Quand on évoque ce mot-là, on dit ben voilà, c'était le temps où les riches avaient besoin des pauvres d'ici. Maintenant, c'est les pauvres d'ailleurs, quand ils ont besoin. Mais cette classe ouvrière, eh ben voilà, maintenant, elle a disparu, elle s'est délitée, elle n'a plus de force à l'intérieur d'un rapport de force. Cette classe ouvrière n'a plus de force. Qu'est-ce que vous répondez à ce cliché ?
J'ai essayé de répondre avec des éléments factuels et puis des éléments de compréhension politique. C'est-à-dire qu'il y a des éléments objectifs qui sont liés à l'évolution du capitalisme lui-même, qui fait que le prolétariat, la classe des salariés a objectivement changé. C'est-à-dire qu'on n'est plus, ne serait-ce que, pour commencer par ça, dans l'époque des grandes concentrations industrielles regroupant des milliers et des milliers d'ouvriers qui avaient quand même, en effet, certains types d'incidences sur le rapport de force, sur le niveau de combativité, d'organisation syndicale. Mais j'essaie de rappeler qu'en même temps, le prolétariat existait avant Boulogne-Billancourt, que le prolétariat du 19e siècle parisien, sur lequel se penchait Marx pour étudier de près, en chair et en os, cette fameuse classe ouvrière, c'est un prolétariat regroupé dans des toutes petites unités d'artisans prolétaires, de 2-3 salariés, pas plus, et pourtant, il y a une stimulation des idées. Donc l'évolution objective du salariat, du prolétariat, sa précarisation, le poids du chômage, l'éclatement géographique, ça explique pas tout. Il y a un problème politique substantiel, et le problème substantiel, c'est le problème du projet d'émancipation, c'est-à-dire qu'on paye le poids d'un échec qui pèse lourd, qui est celui du siècle politique précédent, qui s'est ouvert probablement avec la révolution russe en 1917, qui s'est refermé en 1989, dans lequel les idées socialistes, communistes, ont été discréditées durablement. C'est-à-dire, pour des générations entières, l'idée même qu'un projet alternatif au système capitaliste est encore possible, c'est une idée, voilà, qu'il faut complètement réhabiliter, réinventer. La classe ouvrière industrielle,